Chapitre 37. Leur seul espoir. Tous les ados s'étaient avancés le plus près possible du lac et regardaient la scène, pétrifiés. Isalis, Soutim, Minerva et Olympe se tenaient en équilibre sur la passerelle posée sur la surface gelée du lac, près de la rive opposée. Les quatre singes étaient coincés, sans pouvoir avancer ni reculer. Au moindre nouveau pas, la glace céderait sous leurs pieds. Jean d'Arc et Wayne, les seuls à avoir traversé, se penchaient autant qu'ils le pouvaient au-dessus de la berge et leur tendaient la main, mais ils étaient trop loin. Au milieu de la passerelle, d'autres balayeurs, Mook, Diana et Florentine, se trouvaient eux aussi bloqués, à la merci de la moindre faille ridant le lac gelé qui s'ouvrirait telle une bouche béante pour les aspirer dans ses profondeurs glacées après avoir englouti les statues, les tableaux et les instruments des savants. Les roues avant du troisième chariot étaient désormais entièrement prises dans les glaces. La roulotte du grand cerf penchait presque à 45 degrés. Augénor s'arc-boutait sur sa canne pour ne pas tomber. Combien de temps tiendrait-il? Aucun ado ne pouvait venir le secourir sans prendre le risque de passer lui-même à travers la couche de gel. Plus près de la rive, autour des quatrième, cinquième et sixième chariots, une dizaine d'autres ados étaient pris au piège, principalement des savants et des soldats. Coriolis, Tiphaine, Philao, Gulo-Gulo. Aucun n'osait le moindre geste, de peur d'entraîner tous les autres dans une chute mortelle. Impossible de bouger. Impossible de rester ainsi, à attendre que le couvercle de glace cède d'un coup et les emporte tous. Quel espoir leur restait-il? Valère, soudain, prenant bien soin de ne bouger aucun de ses pieds, se mit à frapper doucement dans ses mains. De la voix la plus régulière possible, il appela « Lupo ! Lupo !» Les autres prisonniers de la passerelle ne comprirent pas immédiatement. Ils le regardèrent, l'écoutèrent, puis réfléchirent et l'imitèrent. Ils frappèrent dans leurs mains en cadence, tout en scandant de plus en plus fort « Lupo ! Lupo !» Où qu'ils soient dans la forêt, ils les entendraient. Il était leur seul espoir. Le chemin descendait en pente de plus en plus raide. Zizo, Akan et les autres fugitifs apercevaient distinctement la ville, juste devant eux. Encore quelques centaines de mètres, et ils seraient sauvés. Les chiens sauvages, tenus à distance par les torches que les ados brandissaient, n'osaient toujours pas attaquer. La meute affamée paraissait étrangement calme, trottinant autour d'eux avec une inquiétante assurance, comme si les bêtes les attiraient dans un piège, ou que, plus sûrement, elles attendaient que les six flammes s'éteignent pour commencer leur festin. Six ados pour plus de 30 chiens. Depuis plusieurs minutes, l'horizon s'ouvrait. Ils étaient sortis de la forêt pour s'engouffrer dans un vaste parc arboré.
C'est le domaine de Saint-Cloud, commenta Zizo. Le jardin des rois.
Il se réjouissait d'avoir étudié les cartes de Paris avec Haussmann, mais pourtant, un mauvais pressentiment le taraudait. Son cerveau butait sur un détail précis dont il aurait dû se souvenir, une menace diffuse qu'il n'arrivait pas à définir. Ils dépassèrent une étrange cascade figée en escalier de pierre, sans s'attarder sur la beauté stupéfiante des stalactites, ni sur celle des bassins gelés bordés d'effrayantes sculptures de lions, de chiens, de monstres couverts d'écailles. Plus loin, la neige recouvrait des étendues nues, entièrement déboisées, vestiges des terrains de sport de l'ancien monde. Ils devaient encore accélérer, atteindre la ville au plus vite. Leurs torches déclinaient trop rapidement, produisant davantage de fumée que de flammes.
« Courage, Marcassin !»
les encouragea Sabi.
« La ville est là, devant nous !»
Elle avait raison. Entre les nuages de brume et les flocons qui continuaient de tomber avec intensité, on croyait presque toucher les maisons. La flèche du tipi semblait à portée de main. Paris était là, derrière le voile de coton. « Le domaine de Saint-Cloud », continuait de réfléchir Zizo. Quel était ce terrible détail dont il n'arrivait pas à se souvenir? Il ne leur restait plus qu'une ultime descente, et ils atteindraient les premiers immeubles. La torche d'Alix s'éteignit alors. Celle d'Akan ne résista que 3 secondes de plus avant d'être soufflée par le vent blanc. Mordelia, toujours sur le dos du géant, brandit les dernières braises de la sienne. Heureusement, la ville était là, juste devant eux.
Mon sanglier adoré,
fit Sabi en s'adressant à Akan.
Tu me défonces la première porte de maison qu'on trouve, et on attend dedans jusqu'au printemps.
Saint-Cloud. Zizo était enfin parvenu à se concentrer et à visualiser dans sa tête le plan du parc sur la carte. Saint-Cloud se trouvait plein est, entre Paris et Versailles. Un des plus beaux jardins du monde d'avant, construit pour amuser les rois de l'autre côté de la...
Nom du ciel !
Cria soudain Sabi.
C'est pas vrai !
Elle poussa un hurlement à déchirer l'hiver. Tous les cinq se figèrent, désespérés, anéantis. Ils avaient déployé tous ces efforts pour rien. Même Akan s'affaissa et déposa Mordelia sur la neige. La ville était là, à portée de main, mais bâtie de l'autre côté de la Seine. Saint-Cloud était construit sur la rive gauche du fleuve, séparé de Paris par un méandre infranchissable. Aucun pont à proximité, aucun endroit pour se cacher. La torche de Zizo, à son tour, s'éteignit. Celle de Mordelia ne lançait plus que quelques flamèches qui n'auraient pas effrayé un chiot. Tant pis, il devait continuer tout de même. Il sentait le souffle des chiens sur leurs talons. Ils coururent, droit devant, sans autre possibilité que de foncer vers la Seine. Ils avaient conscience de se précipiter dans un cul-de-sac. Mais que faire d'autre ? Ils s'approchèrent du fleuve à grandes enjambées, aussi près qu'ils le purent, et durent brusquement s'arrêter. Un pas de plus sur le quai de pierre, et ils tombaient. La meute approchait, sans aucune peur désormais. 30 molosses affamés. Ils n'auraient bientôt plus d'autre choix que de se jeter dans l'eau glacée ou de se laisser dévorer. Les chiens se déployèrent en arc de cercle. Bill, dernier des fugitifs armé d'une torche enflammée, se retourna crânement.
« Je vais les retenir !»
fit-il en plantant ses deux lourdes jambes dans la neige.
« Je brûlerai le premier. J'étranglerai le deuxième de mes mains. Trouvez une idée pour vous enfuir pendant que les autres me dévoreront. Je vous en supplie, trouvez une idée pour sauver Mordelia !»
Sa faible flamme éclairait le ciel d'hiver. Sa cape de plumes noires était couverte de neige. Bill sourit à Mordelia et ferma un bref instant les yeux, comme pour graver à jamais son visage sur l'envers de ses paupières. Puis, il s'avança d'un pas déterminé à la rencontre des 30 chiens alignés devant lui, tous crocs acérés.